Bonjour, honorable assistance. Après la séance précédente qui nous a mis dans le cadre anthropologique de l'accouchement institutionnel, nous allons passer au même aspect, mais cette fois-ci concernant l'accouchement à domicile. L'accouchement à domicile, en s'intéressant particulièrement, est-ce un choix ou une nécessité ? Ici présent avec moi à ce panel, quatre brillants chercheurs qui vont nous entretenir de cet aspect. Docteur Siné, s'il vous plaît.
Merci, Madame la Présidente.
Docteur Siné Gwanda est chercheur, chef de département santé publique à l'Institut de recherche en sciences de la santé, Ouagadougou, Burkina Faso. La parole est à vous, docteur.
Ok, merci. Après toutes ces belles présentations en anthropo, je ne sais pas si vous allez adorer les chiffres, mais enfin, on va essayer d'y aller. Ma présentation va porter effectivement sur le lieu de l'accouchement, les statistiques y relatives, mais surtout, je pense que c'est une invite à la réflexion, hein, parce que derrière les chiffres, il y a des significations que les anthropologues ou d'autres sciences également peuvent explorer de façon plus approfondie. Les chiffres veulent toujours dire quelque chose. En introduction, je dirais ce que tout le monde sait. On sait que la mise en œuvre des stratégies de réduction de la mortalité maternelle connaît des progrès, mais ces progrès sont en tout cas insuffisants dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne pour atteindre donc les OMD, surtout les OMD 5. Ça, on le sait pertinemment avec tout ce qu'on a aujourd'hui, les statistiques qui sont sorties de l'OMS qui sont sorties, qui montrent l'évolution des ratios de mortalité maternelle, montrent que pour beaucoup de pays, les progrès sont insuffisants pour atteindre les objectifs. Évidemment, au-delà des objectifs, on entend par là pour réduire de façon significative les femmes qui décèdent, hein, pour réduire ce drame que vivent beaucoup de familles donc en Afrique. Alors, dans ces stratégies, le lieu de l'accouchement reste un élément clé. Le lieu de l'accouchement, en ce que, pas simplement juste parce qu'on veut dire que c'est la formation sanitaire, parce que dedans renferme donc, il s'y trouve des personnes qualifiées qui peuvent donc apporter une assistance à la femme qui en principe devrait donc permettre d'éviter non seulement les complications, mais les décès. Alors, à travers cette présentation, je voudrais donc revenir sur la situation actuelle, liée à l'assistance à l'accouchement et les implications que l'on a derrière donc les chiffres. D'emblée, je dois dire que ce n'est pas évident de trouver les chiffres, hein. J'ai essayé, surtout des chiffres actuels, c'est pas évident. Pour certaines pathologies, chaque fois vous avez les chiffres dès le premier trimestre pour le VIH, vous avez les chiffres de l'année antérieure et ça vous met vraiment en situation de dire voici ce qu'on a fait, voici les progrès, etc. Mais pour le reste, j'avoue que dans certains pays, 2 ans après, on a les chiffres de 2008, mais on n'a pas les chiffres de 2009, on n'a même pas je ne parle pas des chiffres de 2010. Alors, dans une certaine mesure, les stratégies qui ont été mises en œuvre pour réduire la mortalité maternelle visent à améliorer la qualité de la prise en charge, notamment quand on parle de SONU, c'est la qualité de la prise en charge. C'est un package d'interventions qui permet de prendre de façon efficace donc en charge la femme. Et on sait qu'il y a des stratégies qui sous-tendent donc l'accès aux services de santé par les femmes, parce que l'une des barrières que les études ont montré, c'est la barrière financière à l'accès aux services de santé. Ça aussi, c'est connu. Et de plus en plus, en tout cas, beaucoup de pays en Afrique subsaharienne ont mis en place des politiques d'exemption ou de subvention, que d'autres disent gratuité ou chose, mais en tout cas des politiques pour lever la barrière à l'accès donc aux services de santé. Et des efforts également ont été faits pour augmenter l'offre de services de santé pour donc ces pays-là. Alors, que nous disent les chiffres donc, en termes donc, d'assistance à l'accouchement, en termes donc, d'un certain nombre d'accès aux services. Ça, c'est les chiffres que ces chiffres, c'est global. Ce sont des chiffres médians pour 20 pays que j'ai tirés donc du countdown 2015. Donc, c'est le rapport donc qui montre ça. On voit que en termes d'assistance à l'accouchement, on est à peu près autour de 52%. Et les CPN, on est autour de 50%. Évidemment, avec de grandes disparités entre les pays, je pense que Luc de Bernis a montré dans sa première présentation comment les statistiques différaient énormément entre les pays. Et dans un même pays, entre les régions, donc en général entre le milieu urbain et le milieu rural, il y a une très grande différence. Donc, après avoir présenté ce chiffre global, j'ai pris en exemple trois pays, le Burkina, le Niger et le Mali. J'ai essayé de revoir quels sont les chiffres qu'on a en termes donc d'accouchement. Donc là, vous voyez qu'en 1998, pour le Burkina Faso, on voit qu'en 1998, pour les CPN, au moins une CPN, on était à 61% et ça remonte, 61% jusqu'à 85%. Donc, beaucoup de femmes, relativement, vont à la CPN. On a les accouchements par du personnel qualifié. Ça, c'est des statistiques tirées des estimations donc, de l'OMS. De 31% à 54%, donc de 1998 à 2006, pour l'accouchement qualifié. On a d'autres chiffres pour les estimations d'accouchement institutionnel. Parce que accouchement institutionnel, on le sait très bien, ne veut pas dire forcément accouchement qualifié, parce qu'on n'a pas toujours du personnel qualifié pour faire les accouchements. Alors, donc, ça va de 32% à 54%. Il y a quand même des augmentations, et en ce qui concerne donc l'accouchement par du personnel qualifié, l'accouchement institutionnel, et on voit que les pourcentages pour l'accouchement à domicile diminuent au niveau donc du Burkina. En 2010, c'est les chiffres récents. Ça, j'ai ces chiffres du Burkina parce que c'est nous qui avons conduit l'évaluation des besoins en SONU. Donc, on a les accouchements institutionnels qui s'élèvent donc à 73% et avec des accouchements à domicile à 27%. Ça reste quand même relativement élevé. Pour le Niger, on a certes une augmentation des CPN, mais on voit que l'accélération pour ce qui est donc des accouchements institutionnels, reste vraiment très lente. On est en 2008 à 21% d'accouchements institutionnels, avec du personnel qualifié. Bon, donc je n'ai pas eu les autres chiffres pour ce qui est donc de faire la différence de l'accouchement avec du personnel qualifié institutionnel. Mais on peut déduire qu'on a près de 60, au moins 70% d'accouchements à domicile au Niger. Mais là aussi, avec de grandes disparités entre le milieu urbain et le milieu rural. Une très forte disparité entre le milieu urbain et le milieu rural. Au Mali, on a également pour la CPN une augmentation. Là également, on voit qu'on a des accouchements institutionnels et qualifiés qui augmentent sans atteindre les 50% d'accouchements institutionnels ou d'accouchements donc, avec une assistance qualifiée. Donc, j'ai pris ces trois pays pour vous montrer un peu que il y a beaucoup d'efforts à faire dans ces pays. Parce que on voit bien que les gaps sont énormes en ce qui concerne donc les accouchements. C'est vrai que pour au moins une CPN, on a beaucoup de femmes qui, en fait, les femmes vont au moins pour une CPN. Pour les quatre, ça c'est aussi, les trois ou les quatre, ça c'est aussi un autre défi. Et je pense que quelqu'un a donné l'explication, peut-être qu'elle ne joue pas, mais c'est quand même une explication, c'est que beaucoup de femmes viennent pour avoir, comme on dit, le carnet, pour que si éventuellement elles doivent accoucher à l'hôpital, dans un milieu hospitalier, qu'elles puissent présenter au moins le carnet. Alors, quelles sont les implications? Quand on regarde derrière ces chiffres, qu'est-ce qu'on peut donner comme réflexion? C'est que, d'abord, la question de l'accessibilité financière reste quand même posée, parce que je pense qu'il y a une réduction des dépenses directes, mais les niveaux globaux restent relativement élevés pour les populations. Il y a la question de la qualité technique, la qualité de l'offre, de l'accessibilité géographique et de l'accessibilité culturelle. Ce sont des points d'interrogation, parce que on va certainement en discuter, je ne vais pas être long pour qu'on puisse effectivement échanger là-dessus. Pour les dépenses d'accouchement, nous avons fait une étude à Ouargaï et nous avons comparé 2006 à 2010 parce qu'on avait les données du projet Impact 2006 avant donc la mise en place de la subvention des accouchements au Burkina. Et nous avons refait la même enquête en 2010 au Burkina dans un district sanitaire. Je vous présente juste ces slides. Celui qui me suit, Valérie Ride, va présenter plus en détail donc ces dépenses. On voit que les dépenses médianes qui ont été faites varient donc de 4063 en 2006 et sont à 900 en 2010. Donc il y a une réduction importante donc des coûts directs et les dépenses indirectes. Et augmente, c'est normal parce que le coût de la vie augmente, mais je voudrais dire que ce sont des coûts ajustés. On les a ajustés donc en fonction donc de l'inflation. Et on voit que les dépenses directes représentaient donc 67% de toutes les dépenses donc d'accouchement en 2006. Elles ont été réduites à 19%, mais elles restent relativement élevées. Donc il y a un certain nombre de coûts de dépenses indirectes et Valérie va revenir là-dessus, le transport, l'alimentation qui reste relativement élevé et pour ce qui concerne donc les ménages, les femmes qui viennent accoucher. Donc comme je le disais, on a une réduction des dépenses directes mais on a quand même les dépenses indirectes qui restent élevées. Et je voudrais dire que la subvention au Burkina, c'est de 20% du coût de l'accouchement et le coût de l'accouchement, et les 20%, c'est 900 francs que les femmes payent en accouchement utopique, en accouchement donc normal. La question de l'accessibilité géographique, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits, mais quand on regarde certaines études, donc j'ai deux études que j'ai regardées un peu, et l'étude qui a été faite à Nouna par Manuela et puis Valérie Reed montre que le facteur, la distance inférieur à 5 km est un facteur associé donc à l'accouchement institutionnel. Ça, c'est normal. Quand on est plus proche, on peut comprendre aisément qu'on puisse avoir accès donc au service de santé. Ensuite, il y a l'étude qui a été faite par Fournier avec Dumont qui est là, où ils ont donc évalué une intervention avec une disponibilité des interventions obstétricales majeures et la réduction du temps de transport, parce qu'il y a un système d'évacuation, de référence qui a été mis en place et qui permet donc à la femme qui a des complications d'avoir accès rapidement à un moyen de transport gratuit, montre qu'effectivement c'est un élément aussi majeur dans le processus donc qui fait que la femme ait accès donc à un accouchement qualifié. Et je dois dire que mes propres observations empiriques sur le terrain, vous arrivez parfois dans certaines. Ce n'est pas seulement la distance, mais les obstacles aussi. Parce que ça peut ne pas être trop loin, mais un certain nombre d'obstacles font que les femmes ne vont pas donc en milieu institutionnel. Et je ne sais pas, vous connaissez, pour ceux qui connaissent le Burkina, où la mobylette est un vecteur, enfin, c'est vraiment le pays des mobylettes, etc. C'est incroyable comment vous voyez les femmes enceintes, en travail. Et elle doit être sur moto pour rejoindre un centre de santé. Même si c'est sur 6, 7, 8 kilomètres, je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passe. C'est vrai qu'avec les ambulances ne sont disponibles que dans les hôpitaux des districts, pas dans les centres de première ligne. Donc, même s'il faut aller chercher la femme, ça veut dire qu'il faut appeler avec la disponibilité du téléphone mobile, il faut appeler à 30 km pour qu'on vienne chercher la femme qui a commencé son travail, etc., dans un village. C'est vraiment incroyable. Et ça explique pourquoi ce sont les femmes qui sont autour du centre de santé qui ont plus tendance à donc aller dans les services de santé pour accoucher. Il y a des expériences au Burkina où, à partir d'un certain moment, à 9e mois, on dit à la femme, tu ne rentres plus en fait chez toi, parce que si tu rentres chez toi, c'est sûr que tu ne vas pas accoucher. Donc tu restes à l'hôpital et là, on est sûr que tu vas accoucher. Parce qu'on sait qu'en saison de pluie, dès qu'il commence à pleuvoir, c'est impossible, le village, il est coupé du service de santé. Alors, la question de la qualité de l'offre, c'est très important. Et comme je le disais tantôt, c'est la question de la disponibilité des interventions obstétricales majeures. Ça, c'est très important. Mais ce n'est pas seulement ça. Il faut le voir dans un package. Et quand on le met dans un package, comme l'étude de Fournier l'a montré, on voit que le risque de décès est diminué de 2, est réduit de 2. Parce qu'on a un package par rapport à une zone contrôle qu'ils ont eu à mettre en place, le risque donc de décès est réduit de 2. Parce qu'il y a un package, un ensemble d'interventions qu'on a mis en place et ça permet effectivement de prendre rapidement la femme dans de meilleures conditions. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ensuite, tout le monde sait la question des accouchements institutionnels versus qualifiés. A priori, on s'attend effectivement à ce que, quand la femme va au service de santé, elle soit donc prise en charge par du personnel qualifié, selon la définition de l'OMS, mais on le sait très bien que ce n'est pas le cas. Au Niger, on a dit que les matrones doivent accompagner les femmes vers les services de santé, on a recentré leur rôle parce qu'elles n'ont plus le rôle d'accoucher, on le savait, elles le faisaient dans les villages, etc. Mais tout le monde sait que, bien souvent, surtout la nuit, que la sage-femme, je m'excuse, hein, je ne veux pas les attaquer, mais c'est la réalité, elle dort et puis après on vient lui dire qu'il y a l'accouchement et elle va, comme on le dit, les dirait Aïssata, elles vont couper le cordon après, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont connues. Et souvent, ce n'est même pas ça. Souvent, on n'a pas le personnel qualifié même au service de santé. Dans des districts au Burkina, dans plein de districts, c'est toujours les accoucheuses auxiliaires. C'est toujours les accoucheuses auxiliaires. Et ça fait que ça plombe la qualité de choses. C'est vrai qu'elles sont dévouées, mais elles n'ont pas le background ni les compétences nécessaires pour assurer un certain nombre de fonctions. Et ça, c'est une réalité. Et bien sûr, ça rejoint ce que j'ai dit, c'est l'insuffisante et inégale répartition des ressources humaines qualifiées, qui sont tous focalisées dans les capitales africaines. C'est ça, vous arrivez là-bas, vous arrivez, et pour plein de raisons, on ne jette l'anathème sur personne, mais c'est une réalité. Vous trouverez des services de première ligne avec 15, 20 personnels qualifiés, et vous arrivez juste à 100 km de la capitale, vous trouvez les mêmes services de première ligne, vous ne trouvez personne. Et quand ceux que vous trouvez ne sont même pas là. La dernière sortie que j'ai faite, ça ne vaut même pas un mois. Les populations nous ont dit, quand est-ce que vous allez nous envoyer du personnel formé? Puisque chaque fois, le personnel était en formation. Ils ne sont jamais là. Donc, ils réclament du personnel formé qui va éviter, parce que dans leur entendement, ça va éviter que le personnel aille toujours en formation. Parce que le personnel est toujours en formation, est toujours au district pour des formations. Toujours en termes de qualité de l'offre, j'ai quelques résultats de l'évaluation des besoins à SONU que nous venons donc de présenter le 7 décembre, qui montrent que les taux de couverture en SONU, c'est-à-dire que les formations santé de base qui offrent les 7 fonctions essentielles, ce taux de couverture n'est que de 16% au Burkina. Donc, AMDD, ils ont présenté un peu le faciès sur plusieurs zones. On voit que le Burkina est dans le même range. On n'a que 16%. Parce que les formations n'arrivent pas à délivrer les 7 fonctions de base et les formations qui devaient délivrer les fonctions complémentaires encore n'arrivent pas à fournir un certain nombre de services. Ce qui fait que pour la prise en charge des complications, la 45% des complications sont prises en charge dans les formations sanitaires et dont 14% dans les formations sanitaires donc SONU. Ce qui fait qu'on dira que les besoins satisfaits en SONU sont donc de 14%. Donc ça, c'est un ratio qui est calculé et donc selon la méthodologie de AMDD. Toujours dans cette évaluation des besoins SONU, on a essayé de faire une revue des cas de décès maternel. On voit que la plupart des décès maternels, la période de décès, c'est surtout après un accouchement par voie basse. C'est ce qu'on observe. Je vais aller vite, il semble que ces choses. On a regardé un peu l'établissement d'admission, c'est-à-dire à l'origine, parce qu'elles décèdent souvent dans les formations santé de second niveau, mais à l'origine, d'où elles sont venues, on voit que 71% venaient des services de santé de première ligne. Donc, elles ont eu des complications et ont dû être donc évacuées donc, dans les formations sanitaires de seconde ligne. Et le temps écoulé entre l'accouchement et le décès, on voit que 27%, c'est dans les 7 heures. Et quand on regarde, on a plus de 50% dans les 24 premières heures. Donc c'est quand même une période, on le sait, sensible. Et s'il y avait eu de la surveillance, s'il y avait eu beaucoup de surveillance, on n'en serait pas là. Et ça, c'est un résultat que je trouve, on va dire, intéressant d'un point de vue, mais en même temps qui montre un peu la qualité des services donc, qui sont fournis. Et bien sûr, les causes du décès restent les hémorragies, on le sait, mais on ne comprend pas qu'avec toutes ces stratégies qui sont mises en œuvre, ça reste toujours donc les hémorragies. On s'attendrait à ce qu'il y ait un changement donc du faciès donc épidémiologique, mais on reste toujours dans cette situation. Donc, je vais juste conclure. C'est toujours la traditionnelle question, comment on fait pour les accouchements en milieu institutionnel et le personnel qualifié? La rétention du personnel en milieu rural, quel type de motivation? La question de la redévelopabilité, de l'audit des décès maternels donc, qui ont été parlé ici. On sait que les politiques de réduction des barrières financières jouent sur la demande, mais la question de la qualité et de la disponibilité de l'offre reste posée. Et tout comme j'ai commencé, je vous repose la question, pourquoi continue-t-elle à mourir et qu'est-ce que nous pouvons faire? Merci.